D'abord, pensons un peu à ce que ça peut vouloir dire, la communion. La communion, c'est d'abord la communication. Mais c'est un certain type de communication. C'est un type de communication qui est au-delà du verbal. Ça peut contenir le verbal, mais c'est au-delà du verbal. Quand on parle de communion, on veut dire le partage de sentiments. Un partage de sentiments ou d'esprit qui généralement est au-delà des paroles, n'est-ce pas? Alors, une communication qui, si vous voulez aussi, on peut dire on peut qualifier d'intuitive. Mais c'est un partage de sentiments. C'est un partage de sentiments. Et Shoghi Effendi décrit la communion avec Dieu comme un partage de sentiments, comme un sentiment qui unit l'homme, qui unit le cœur de l'homme à Dieu. Donc c'est une communication de cœur, si vous voulez, de cœur à cœur. Maintenant, une telle communication ne peut avoir lieu que sous certaines conditions, c'est-à-dire on ne peut pas communier avec n'importe qui. La communion est dans une certaine mesure une relation réciproque. C'est-à-dire, communion, on partage quelque chose, donc il y a une sorte de réciprocité. Ce n'est pas simplement un sens unique, n'est-ce pas? Donc, ça peut commencer par la prière, mais ce n'est pas juste la prière, parce que la prière, c'est nous qui demandons à Dieu. Et la méditation, c'est nous qui écoutons Dieu, si vous voulez. Donc, on peut dire que la communion avec Dieu, c'est le résultat de la prière et la méditation, mais ce n'est pas exactement la même chose que la prière et la méditation non plus. Parce qu'on peut prier sans avoir ce sens de partager des sentiments avec Dieu. On peut aussi méditer sans l'avoir. On peut l'avoir, bien entendu. Tout ce que je veux souligner en disant ça, c'est que la communion est une sorte d'état de relation qui n'est pas strictement limité à nous qui parlons à Dieu ou Dieu qui parle à nous. C'est une sorte de relation réciproque, un partage. Maintenant, comme je dis, la nature d'une relation réciproque, c'est que, il faut que les deux partenaires dans le dialogue soient quand même sur la même longueur d'onde, comme on dit, ou un peu sur le même niveau. Donc, on ne peut pas espérer communier avec quelqu'un qui est à un niveau spirituel très inférieur à nous. Et nous ne pouvons pas espérer communier avec quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel que nous non plus. Baha'u'llah dit que dans l'autre monde, il y a une hiérarchie, il y a un ordre, et que ceux qui sont, il dit chacun a un rang qui détient selon son degré d'avancement spirituel. Donc ce n'est pas un statut de pouvoir comme nous pensons dans ce monde-là. Mais c'est un rang spirituel qui exprime le degré de développement spirituel de cette personne. Et il dit, ceux d'un rang donné peuvent comprendre tous les rangs inférieurs, mais jamais les rangs supérieurs. Donc il faut qu'il ait une sorte de communalité pour que la communion soit possible. Donc, pour prendre un exemple très court, enfin, qu'il va l'expliquer, ça serait très stupide, en fait, de penser qu'on peut communier, par exemple, avec un membre de la mafia, ou un truand, ou un assassin. C'est-à-dire, l'état d'âme de cette personne à ce moment-là serait à un tel niveau que la réciprocité nécessaire à la communion ne peut pas exister entre nous, à moins que nous descendions à son niveau. ce qu'on ne veut évidemment pas faire. Et c'est pourquoi, dans les paroles cachées, Baha'u'llah dit, entre autres, d'éviter les compagnons des injustes. Maintenant, d'une autre part, Baha'u'llah nous dit d'enseigner la foi à tout le monde, sans exception, d'être bienveillant à tout le monde. Donc, Baha'u'llah ne dit pas qu'il faut être snob envers les autres, qu'il faut juger les autres. Mais il dit qu'il ne faut pas prendre comme ami ou comme compagnon une personne qui est injuste. Pourquoi? Parce que l'amitié est une relation réciproque. Et si une personne est injuste, la seule façon que vous pouvez avoir l'amitié avec lui, c'est de descendre à son niveau. Donc tu vas automatiquement devenir autre chose que tu es pour satisfaire à cette personne. Et je pense que nous avons tous eu ces expériences dans la vie, en fait. Moi, je les ai eues très souvent, surtout dans la jeunesse, mais même après, où je me rendais compte que certaines personnes avaient une influence très négative sur moi parce qu'ils ne pensaient qu'à certaines choses, et puis ils n'avaient pas moyen de parler à autre chose avec ces personnes. Et puis, si on était ensemble, c'était toujours ce que lui, il voulait faire, parce que ce que moi, je voulais faire, il ne voulait pas faire, n'est-ce pas, en fait. Donc, ça prend un certain niveau de développement spirituel des deux côtés pour qu'une communion soit possible. Ça, c'est entre êtres humains. Avec Dieu, la communion exige la pureté de cœur, dit Baha'u'llah. Ce qui veut dire un certain développement spirituel. Mais en particulier, il parle de pureté de cœur. Il dit que ça, c'est le prérequis à la communion avec Dieu. Tant qu'on n'a pas purifié son cœur, on ne pourrait pas vraiment expérimenter cette communion avec Dieu. Et dans une des paroles cachées, il dit une chose, « Pourquoi cherches-tu à communier avec moi avec un cœur chargé de désirs terrestres ?» Il dit « Loin, loin es-tu de ce que tu cherches ?» Donc, je pense que nous avons tous aussi l'expérience quand on lit une prière, que l'esprit commence à penser à autre chose, etc., que notre âme ou notre esprit est rempli d'idées, etc. Et c'est là que nous voyons que nous n'avons pas la pureté de cœur nécessaire pour entrer vraiment dans la communion avec Dieu. Donc, Dieu est parfaitement pur, et nous ne pouvons pas espérer communier avec Dieu sans avoir subi un certain processus de purification. Et ce processus de purification est aussi nommé détachement. Le détachement du monde est un processus de purification. Enfin, c'est deux noms pour la même chose. Maintenant, question, qu'est-ce que ça veut dire le monde? Alors, Baha'u'llah, il est très rusé. Il dit que le monde, c'est n'importe quoi qui intervient entre nous et Dieu. Ça peut être une idée. Ça peut être une personne. Donc le monde, ce n'est pas simplement des choses matérielles ou la possession des choses matérielles. Ça, c'est le monde. Mais le monde, c'est n'importe quel attachement qui nous empêche de mettre Dieu en premier plan, qui intervienne entre nous et Dieu. Donc, si nous voulons demander si un attachement donné est une chose positive ou négative dans notre vie, alors on peut dire que, on peut poser la question froidement, est-ce que cet attachement m'empêche d'aller vers Dieu? J'ai un certain attachement pour ma femme. Mais cet attachement ne m'empêche pas d'aller vers Dieu. Au contraire, ma relation avec ma femme m'aide à avancer vers Dieu. Comme Baha'u'llah dit que le mariage est une forteresse du bien-être, n'est-ce pas? Donc, Ce n'est pas dire que tous les attachements sont négatifs, mais un attachement devient négatif au moment et dans la circonstance précise que cet attachement intervient de quelque façon entre nous et Dieu. Maintenant, je voulais juste dire quelques mots sur ce processus de purification ou processus de détachement. Dans une de ces tablettes, dans un de ces écrits, qui a été écrit en arabe mais qui n'est pas encore traduit, mais dont le contenu est discuté dans un des livres de Adib Tahirzadeh, qui a traduit, qui a fait le résumé de beaucoup d'écrits de Baha'u'llah en anglais. Il a traduit certaines, mais il a fait le résumé de beaucoup des contenus sans les traduire, n'est-ce pas? Et il a écrit 4 volumes qui s'appellent « La révélation de Baha'u'llah ». Et c'est dans le deuxième de ces volumes qu'il étale le contenu de cette tablette. Et voici ce que Baha'u'llah dit en résumé, que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il dit que le détachement a 3 étapes. D'où le titre de la causerie de ce soir. La première étape, c'est, il dit, le détachement des vanités de ce monde. Là, je pense qu'il veut dire assez clairement des choses matérielles. L'attachement au sens le plus cool, n'est-ce pas? L'attachement à l'argent, l'attachement à... au renommé, n'est-ce pas, au statut dans la société, les vanités de ce monde. Parce que Baha'u'llah dit maintes et maintes fois que dans le prochain monde, quand nous quittons ce monde, que tous les paramètres de ce monde nous apparaîtront complètement vaines, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... si on a été très réussi dans les affaires, si j'étais professeur à l'université, si j'ai publié beaucoup de choses, si j'étais renommé, tout ça, ça va être comme la poussière dans l'autre monde. C'est-à-dire, c'est pas sur ça qu'on va être jugé. On va être jugé sur notre développement spirituel. Donc, Abdu'l-Bahá même le dit de cette façon, que je trouve très bien, il dit, un petit... Comment est-ce qu'on traduit « mat » Ce n'est pas exactement un tapis. « Mat ».
Tapis pour les pieds.
Oui.
« Mat », ce n'est pas pour la sortie du bain.
Et un petit tapis,
même
oui.
Celui du chien s'appelle « mat ».
Oui. En tout cas, il dit un petit couvert, un petit tapis dans le royaume vaut beaucoup mieux que d'être le roi de ce monde. Vous comprenez? Il dit donc, les gens aspirent à devenir riches, aspirent au prestige, au pouvoir, mais il dit, tout ça, c'est vain. Et dans un autre passage, il dit la chose suivante, il dit, on vient dans ce monde nu et dépourvu de toute possession, et on va aller dans l'autre monde nu et dépourvu de toute possession. Donc, tout ce que nous aurons possédé ou que nous croyons avoir possédé pendant tout ce passage terrestre, sera absolument sans aucune valeur. La seule chose qui a une valeur, dit Abdu'l-Bahá, c'est la supplication envers Dieu et le service à Dieu. Il dit, ce sont les seules choses qui vous profiteront dans ce monde, dit Abdu'l-Bahá, c'est la supplication continue envers Dieu et le service au seuil de Dieu. Il dit, toute autre chose est passagère et vaine. Donc, quand Baha'u'llah parle de détachement des vanités de ce monde, il veut dire toutes ces choses-là. Le prestige, l'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas ces choses-là, je pense que ça c'est compris, mais ou une autre façon de dire le détachement des vanités de ce monde, c'est l'indulgence de nos désirs sensuels, n'est-ce pas? Tout ce qui... Abdu'l-Bahá dit que nous avons le droit de jouir de nos sens, du manger, etc. Mais il ne faut pas les flatter, il dit, parce que il dit, ce sont des bons serviteurs, mais des maîtres terribles. Okay. Donc, on parle maintenant, par exemple, d'addiction sexuelle, d'addiction émotionnelle. On a maintenant toutes sortes d'addictions. On a l'addiction au jeu, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas, il y a combien maintenant de groupements. Enfin, on a l'addiction à peu près tout, n'est-ce pas? Mais il y a les addicts du sexe, addicts de l'émotion.
Addicts de TV.
De quoi?
Télévision.
Ah oui, d'accord, oui, oui, le télé et des jeux vidéo, ça c'est aussi, de porno, ça c'est une chose, oui. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai lu une chose dernièrement, enfin c'était une chose dramatique, un type qui a détruit sa vie, mais a détruit sa vie complètement parce qu'il était addict de pornographie, et puis finalement, il s'est guéri un peu, et puis il a divorcé, sa femme l'a divorcé, il dit, mais je ne veux pas vivre avec une saleté comme toi. Mais ils sont devenus amis après, et maintenant ils font un couple, pas un couple marié, mais ils vont partout dans les écoles, hommes et femmes, ok, parler aux ados pour leur avertir quant au danger de l'addiction aux pornographies, que ça peut les détruire. Et aussi, on a dit que, ils ont donné des statistiques que 75% des gens qui voient la pornographie sont addicts à la pornographie. Il dit qu'il y a peut-être 5 ou 10% au maximum qui le voient simplement par curiosité, mais il dit le risque d'être addict, si on le voit, est très très grand. Il dit que on s'accroche très vite et que c'est. Il dit que la seule façon de l'éviter, c'est de ne jamais regarder. Parce que si vous commencez à regarder, il dit, ça vous prend très vite. Tout ça, c'est les vanités de ce monde, n'est-ce pas? C'est toutes ces choses-là où nous donnons libre cours à nos sens, ok? Et comme nous avons le droit, dans le mariage, nous avons les relations sexuelles, le sexe, ça vient de Dieu quand même, et tout ça. Toutes ces choses-là sont... dans l'art, nous avons la beauté de la figure féminine, n'est-ce pas, la grande art et tout ça, toutes ces choses-là, mais il faut, Abdu'l-Bahá'i, il utilise le mot flatter, il ne faut jamais flatter les sens, il ne faut jamais les indulger, il ne faut jamais donner libre cours à ces choses-là. Parce qu'il dit, ce sont des serviteurs ou des esclaves fidèles, mais des maîtres absolument terribles. Bon, comment?
Il ne faut pas les flatter, je ne comprends pas le
sens. Oui, flatter, il ne faut pas... Il faut les discipliner, il faut les dompter à tout moment. Il ne faut jamais se donner aveuglément à ses passions.
Leur donner une place, mais ne pas ça. Plutôt de la place, trop de place.
C'est ça.
La discipline.
La discipline. Un contrôle, il faut toujours maintenir un certain contrôle. On ne peut jamais simplement se laisser aller à ses passions. Ok. Bon, je pense que la science est un peu à découvrir pour tout le monde, n'est-ce pas, en fait. La deuxième étape, bon, je pense que tous les philosophes et tous les prophètes ont été d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous prenez le discours de spiritualité de n'importe quelle culture, de n'importe quelle source, tout le monde commence à parler du détachement de ce monde, etc. etc. Bon. Alors on peut prendre ça pour acquis, ça c'est la base. Ce que je trouve plus intéressant, c'est les deux autres étapes. La deuxième étape, ça va vous étonner, mais ça m'est, en tout cas, peut-être. Il dit, la deuxième étape, il faut se détacher du bienfait de l'autre monde. Donc, Baha'u'llah dit, bref, il faut aimer Dieu, parce que, rappelons que ce qu'on cherche, c'est la communion avec Dieu. Okay. Il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu, pour lui-même, et pas pour n'importe quelle récompense que Dieu va nous donner, soit dans ce monde, ou soit dans l'autre monde. Maintenant, c'est évident qu'il y aura des récompenses. Et nous savons qu'il y aura des récompenses. Et Baha'u'llah promet des récompenses. Donc, le tour qu'il faut jouer, c'est d'être détaché des récompenses tout en sachant qu'on aura des récompenses. OK?
Parce que
on sait
qu'il y aurait des récompenses.
C'est ça.
Seul Dieu peut savoir si on est digne.
C'est ça. Mais il n'y a même pas ça. Et même si Dieu est là, c'est ça que j'ai compris, ok? Même si Dieu est là, il te dit, quoi que tu fasses, tu auras telle ou telle récompense dans l'autre monde. Je te garantis que quoi que tu fasses désormais, tu auras telle ou telle récompense. Il faut quand même que tu sois détaché de cette récompense et que tu aimes Dieu seulement pour lui-même. Okay? Parce que dans certains cas, il a des promesses. Abdu'l-Baha a fait, je connais des cas où Abdu'l-Baha a dit à des gens, vous avez gagné votre salut, votre salut est assuré, etc. Enfin, il a dit ça à certaines personnes. Mais évidemment, c'était des personnes qui étaient évidemment détachées. Donc, pour eux, ça ne faisait rien qu'ils avaient. Ils avaient ces récompenses qui les attendaient, n'est-ce pas? Tu sembles perplexe, non?
Non.
OK.
Surtout ne pas lâcher, justement, parce qu'on n'a pas de récompense. C'est dans les périodes où ça va très, très mal.
C'est ça, oui.
On serait peut-être porté de lâcher.
C'est ça.
Si on attend des récompenses.
C'est ça. Donc, il faut être motivé par notre amour pur pour Dieu, n'est-ce pas?
C'est ça, je crois que le moment où on commence...
Donc, grosso modo, la deuxième étape, pour, je pense qu'on peut dire, c'est la motivation, la pureté de motivation. Donc, la première étape, c'est la purification, la pureté des sens, OK? Le deuxième niveau, c'est la pureté de l'action. De la motivation, de l'intention. Okay. Alors, qu'est-ce qui pourrait être au-delà de ça? Mais il y a une troisième étape. Et la troisième étape, c'est, bah, on l'a dit, le détachement du royaume des noms. N-O-M-S. Des noms. Alors, Baha'u'llah utilise ce mot très souvent, le royaume des noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne veux pas entrer dans un gros truc philosophique, mais les noms, c'est faire des distinctions. Les noms, c'est de faire des distinctions. C'est-à-dire, Baha'u'llah dit, Dieu est absolument un. Il est entier, il est unique. Il n'y a pas de distinction en Dieu. Toute distinction, il dit, provient de ce monde. Exemple, la lumière du soleil, c'est une lumière blanche. OK? Mais nous voyons dans ce monde différentes couleurs, vert, rouge, etc. Pourquoi? Parce que c'est la nature de ces substances, ces feuilles-là, où ces tiges sont vertes, pourquoi? Parce qu'ils ont une substance physique, qu'on appelle un pigment, qui absorbe toute la gamme, tout le spectre de la lumière blanche, sauf pour la partie verte qu'elle reflète. Et c'est ce qui fait qu'on voit ça vert. Donc ça, c'est la distinction. La distinction ou la séparation se trouve est inhérent dans la chose limitée, pas dans la lumière qui est infinie. La lumière a toutes les couleurs. C'est la lumière blanche, pure, il a toute la réalité enfouie en lui, n'est-ce pas? Mais la distinction, ou la séparation, si vous voulez, provient seulement du monde de la création. OK? Est-ce que ça se comprend un peu?
Encore.
Mais je pense que c'est la meilleure analogie que je connais, c'est la lumière, encore une fois. Mais pensez à la chose suivante. La lumière du soleil, lui, sur le soleil est grand, donc il a des rayons du soleil qui atteignent le soleil. Okay? Alors, si j'ai la lumière blanche qui luit sur la lumière blanche, qu'est-ce que ça va me donner? Si le blanc luit sur le blanc, qu'est-ce que ça va me donner? Blanc. Blanc sur blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Donc, s'il n'y avait que Dieu qui existait, ou si on était au royaume de Dieu, on n'aura pas de distinction. On aura juste le blanc, qui contient tout. OK? Ça serait la lumière pure qui, dans laquelle toute la réalité serait enfouie, mais sans distinction. OK? Mais si on descend, si on prend, quand les lumières, les rayons du soleil luisent sur autre chose que ce qui est blanc, vous avez la distinction. Vous avez la séparation des couleurs, différentes couleurs. Okay? Mais cette distinction appartient à ce monde, pas à la lumière. Cette distinction n'est pas inhérente dans le soleil ou dans le rayon. C'est inhérent dans la nature du monde terrestre. Est-ce que ça va?
Est-ce que c'est le monde qui est le royaume des noms?
Oui, c'est la création.
C'est la création.
C'est tout autre que Dieu. C'est tout en bas de Dieu. Mais c'est, ça s'exprime de la façon suivante. Je suis un peu l'interprétation que donne Adib Tahirzadeh, mais ça me satisfait. Je trouve ça très satisfaisant, mais... Il dit que dans ce monde, ce que ça veut dire, c'est la soif des titres, de la gloire. C'est-à-dire, ma motivation pour faire un certain acte peut être pure, mais je peux quand même chercher l'approbation des autres ou que les autres sachent que j'ai fait ça. Je peux vraiment servir la foi avec sincérité, mais je peux en moi-même chercher à ce que tout le monde sait que j'ai fait telle ou telle chose. J'ai été pionnier, enfin, j'ai donné telle conférence ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Et Abdu'l-Bahá a donné un conseil. Il dit la façon d'atteindre la pureté moral ou spirituel, c'est d'ajuster ses actes à des nobles critères, des nobles standards, sans aucune pensée aux paroles qui vont commenter ou recevoir ses actes. Alors, donc, on a pour l'approbation des autres, mais des titres, quand il dit le royaume des noms, c'est ce qui fait la distinction, qui dit que moi j'ai fait ça et toi tu n'as pas fait ça. Donc c'est une distinction. C'est le royaume des noms, c'est encore une fois faire les distinctions des couleurs, n'est-ce pas? Mais des couleurs de pensée ou d'action et tout ça, n'est-ce pas? C'est de chercher...
La comparaison.
La comparaison, très bien. Oui. C'est chercher la distinction des autres. Chercher à être... à se comparer favorablement aux autres. À avoir un titre. N'est-ce pas? Et donc j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une motivation pure et quand même chercher l'approbation des autres? Et je pense que oui. Je pense que oui. Parce que pour que la motivation soit pure, il suffit qu'au moment que je pose la geste, que je sois vraiment sincère dans ce que je fais. Mais la recherche du pouvoir ou de la gloire, ça peut venir 2 ans plus tard. Je peux même, personne ne le sait, mais à un moment donné, je trouve une façon de dévoiler aux autres. Ou simplement le fait que j'espère que les autres vont découvrir que j'ai fait cette chose-là, tu vois. Donc, ça c'est le troisième degré de détachement. Et c'est la condition de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu est une sorte de symbiose avec Dieu. C'est une sorte de fusion avec Dieu. Et donc, tant que nous tenons à avoir un nom, c'est-à-dire...
Mais c'est simplement être meilleur que d'autres.
Laisse-moi, attends, on peut parler, mais laisse-moi juste exprimer ma pensée, ok? Parce que je pense que c'est plus subtil que ça, un peu, ok? Baha'u'llah a dit la chose suivante. Il décrit les étapes vers Dieu. À un moment donné, il dit, dans cette enceinte sacrée, quand on est vraiment près de Dieu, ok? Il dit, même la contemplation d'une existence séparée de Dieu est un blasphème. Pas une pensée égoïste, simplement de dire que j'existe. Tellement Dieu est grand qu'il faut que je contemple Dieu seul. Que je ne contemple pas moi contemplant Dieu. Vous comprenez? Autrement dit, je peux dire, je suis en train de contempler Dieu. Ok? N'est-ce pas que je suis... Donc, ce n'est même pas comparaison avec d'autres. Ce n'est pas que je contemple mieux que d'autres. Mais même le fait de se donner un nom de celui qui contemple Dieu, mm-hmm. ça bousille déjà l'affaire. Ok?
Je l'appelle humilité.
C'est l'humilité, mais c'est plus que cela, c'est l'effacement complet devant Dieu. C'est l'effacement complet.
Je crois une autre façon de penser, c'est les sept vallées.
Oui, le vallée de pauvreté absolue et d'anéantissement. Mais dans les gemmes de vertu divine, Baha'u'llah donne deux étapes au-delà de cela.
Au-delà des sept vallées?
Mm-hmm. Et le huitième, c'est la vallée de l'immortalité. Et le dernier, c'est la cité au-delà des noms, qui n'a pas de nom. Donc on ne peut même pas dire que c'est l'effacement. On ne peut pas le dire parce que le fait même de le décrire, le gâte, pour ainsi dire.
C'est où ces deux vallées?
C'est dans les Gems of Divine Virtue, je peux te le montrer, c'est en anglais, mais... Donc, en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, que la vraie communion avec Dieu, c'est quand nous arrivons au point où nous pouvons contempler Dieu sans avoir besoin même de penser que nous sommes en train de contempler Dieu. C'est-à-dire, on ne voit que Dieu. Et évidemment, je pense que cette étape, on le trouve pour la plupart, sauf pour Abdu'l-Bahá, seulement dans l'autre monde, mais c'est quand même vers ça que nous tendons, n'est-ce pas, enfin, que nous cherchons à aller. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.